La parole est à l'employeur.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bon, écoutez, c'est toujours difficile d'intervenir en dernier, parce qu'après des éminents spécialistes, et je ne vais pas réfuter avec ce que vient de dire le docteur Salengro précédemment, donc je vais plutôt moi-même apporter mon témoignage, mais c'est un peu difficile, après tout ce qu'a dit le Président tout à l'heure, de pouvoir être original dans ce domaine. N'ayez pas peur, je ne vais pas trop faire court, mais je vais démarrer par la conclusion. Et pour passer un message, c'est que je considère, moi, que la santé au travail ne doit pas être perçue par les chefs d'entreprise, les employeurs ou les DRH comme une contrainte, mais plutôt, on doit l'envisager comme une opportunité, celle de réinvestir l'humain dans nos politiques, pas seulement dans nos politiques sociales, mais nos politiques tout court. C'est l'occasion, je crois, de réinventer la relation au travail, qui entraîne au fil des années, j'en parle par expérience, de perdre un peu de beaucoup de sens. Pourquoi on en parle là aujourd'hui? Parce que, n'ayant pas peur des termes, ce problème de santé s'est révélé, ou plutôt a pris de l'ampleur, en 2008-2009, avec la crise. Et des événements que vous avez appelés, dans un contexte de difficultés économiques et financières, les événements qu'ont vécu un certain nombre d'entreprises. Si la crise, n'ayant pas peur des termes, moi je suis à l'aise pour le dire en tant qu'employeur, n'est pas responsable des événements dramatiques dont vous êtes fait l'écho et que vous avez rappelé tout à l'heure, docteur, mais elle a mis en évidence un malaise qui touche le monde du travail. Il faut le reconnaître, et je crois que ne pas poser ça et ne pas le reconnaître, je crois, serait une erreur. Ce malaise, d'ailleurs, il est lié aussi en partie à une perte de confiance qu'ont les salariés dans nos entreprises. Je lisais ce soir un grand quotidien que vous connaissez dans son numéro qui est Le Monde de l'économie, bon, qui titrait « Perte de confiance des cadres supérieurs envers les entreprises ». Et vous aviez là des statistiques qui montraient ni plus ni moins qu'il y avait un taux de 66% des salariés. Bon, je ne sais pas ce que vaut cette enquête, on ne va pas rentrer sur le fait que le thermomètre n'est pas bon, qu'il est... Enfin, il vous donne quand même une chose, même que si c'est la Sophos ou Ipsos qui pose la question, il y a 66%, toutes catégories, qui se sentent stressées et qui posent ça un problème de perte de confiance. Enfin, il y avait plusieurs questions. Bon, c'est une réalité et j'ai peur malheureusement que le thermomètre ait révélé ce qui est quand même une vraie réalité. Donc, moi, je peux témoigner de ce que j'ai fait en tant qu'employeur. Et je ne vais pas rentrer, si vous voulez, dans le rôle de santé au travail, médecine du travail. Bon, il y a des très bons médecins, docteur. Des très bons qui s'impliquent. Mais il y en a aussi, bon, comme tout, il y a des bons DRH et des moins bons DRH. Il y a des bons chefs d'entreprise et des moins bons chefs d'entreprise. Il y a des bons professeurs et des moins bons professeurs. Bon, ce n'est pas forcément les employeurs qui les poussent à faire que des visites obligatoires et de ne pas aller dans l'entreprise. Il y en a aussi qui ne veulent pas sortir. Il faut appeler un chat. Il y a de tout. Mais il faut faire avec. Voilà. Et surtout, n'essayons pas de sortir des lois, des circulaires ou des textes supplémentaires. Vous le savez bien, ce n'est pas ça qui va régler le problème de fond, j'y reviendrai. Donc vous avez dit tout à l'heure que je suis le DRH du groupe BPCE. Et BPCE, c'est BPCE tout court, et ça ne veut pas dire autre chose.
Ah, j'avais mal dit, hein. Il fallait dire BPCE.
Voilà. Bon, c'est un groupe de 127 000... collaborateurs, et qui est connu surtout par les banques populaires et les caisses d'épargne, mais aussi Natixis, le Crédit Foncier, Banque Palatine, et puis un peu moins connu par les activités dans le monde immobilier, c'est Nexity, c'est Foncia, enfin c'est des marques de ce type. Le groupe nouveau qui s'est construit, entre guillemets, dans la difficulté, dans la douleur, hein, au moment où il y avait une crise financière et économique, et pour lequel ça nous a amené à devoir faire cette fusion, et puis avec une double exigence, la restauration de la confiance de nos clients, et puis au moment où on fait une fusion, il ne faut pas l'oublier, et c'est quand même, vous voyez, dans le cœur du sujet, accompagner nos collaborateurs dans cette période à haut risque, parce que vous le savez, une fusion, c'est toujours stressant, c'est toujours des problèmes, et encore plus dans une situation économique qui est tendue, et pour laquelle quand même l'image des banques ou des organismes financiers, depuis 2 ans, hein, depuis certaines affaires Basdorf et compagnie, ben, elle n'est pas quand même au plus haut niveau. Hein, c'est mérité, vous direz, ben, je vous laisse dire ce que vous souhaitez. Alors, dès mon arrivée en début d'année dernière, c'est-à-dire à partir de la création du groupe BPCE au 31 juillet 2009, avec le président François Perrol, dans le cadre du plan stratégique, j'ai lancé un grand chantier avec tous les DRH et toute la fonction RH sociale, au grand sens du terme, qui est un peu efficience RH. Efficience RH, car j'avais l'objectif de dire que ce groupe, je voudrais que dans 3-4 ans, ce soit un employeur de référence, sinon l'employeur de référence en France, et puis qu'on puisse dire, voilà une boîte où qu'on conseille à nos enfants, à nos voisins, à nos amis, rentre là-bas parce qu'il fait bon travailler, là-bas tu vas t'épanouir, là-bas il y a des organisations apprenantes, là-bas il y a un dialogue social, là-bas il y a un management qui se préoccupe de toi, là-bas tu vas pouvoir te développer, c'est ça que j'ai l'ambition de mettre en place et de créer. Et dans ce cadre-là, bien entendu que j'ai développé, ou j'essaie de développer avec mes collaborateurs et mes collaboratrices, une politique, un volet santé dans le cadre de cette politique sociale. Parce que, bien sûr, on peut former des personnes, gérer des carrières, assurer du développement, avoir une bonne politique salariale, mais c'est un volet important, à savoir cette prévention des risques que vous avez bien rappelé tout à l'heure. La première des choses que j'ai fait en arrivant, ça a été de créer une direction dédiée qui s'appelle Projet Conduite du Changement Santé Conditions de Travail. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours essayé pour ma part de mixer ça, c'est-à-dire qu'il y a bien santé conditions de travail, mais dans une entreprise qui veut développer des projets, qui veut justement faire des fusions, mixer les équipes et tout, c'est quand même assez lié à ce qu'on appelle vulgairement la conduite du changement, parce que c'est là où il y a des impacts, et en particulier dans ce que vous parlez des risques, non pas durs, mais des risques mous dont vous parlez tout à l'heure. Et puis, essayer de mettre en place, deuxième chose, une veille. En y associant, et là, il y a beaucoup de progrès à faire, la médecine du travail, des responsables de sécurité, mais ce n'est pas dans ce secteur où il y a peut-être plus de problèmes. Et puis, quand même, toute la fonction RH, quel que soit leur niveau, leur qualité, leur domaine respectif. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans une entreprise, c'est ma conviction, je vous le dis, d'avoir un certain nombre d'indicateurs, de palpeurs, qui, à un moment donné, vous signalent, là, il y a un malaise. Là, ça ne va pas. Là, il y a un peu trop d'absentéisme. Là, il y a les gars qui sont dégoûtés. Il suffit de les voir comment ils arrivent le matin au boulot. Bon, tout ça, ces choses-là, si on les oublie, pour avoir les yeux axés que sur les indicateurs ou les ratios financiers, je crois qu'on fait une erreur. Beaucoup de boîtes le font. En tout cas, moi, je rappelle, à reprendre un peu ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, cet aspect réinventer la relation du travail. J'ai commencé par là et c'est le fil rouge. Comment ça peut être un facteur positif, le travail ? Alors, je ne vais pas reprendre les célèbres chansons, le travail, c'est la santé. Mais quand même, ça serait une lapalissade ou un truisme de rappeler que le premier secteur, premier stress, quand même, c'est ceux qui n'ont pas de boulot, ils vous le disent. Moi qui conduis quand même un groupe de travail au Grenelle de l'insertion, je peux en témoigner, je ne suis pas resté insensible à certains témoignages de gens qui galèrent depuis des années, et qui sont dans la rue, qui n'ont pas de boulot, qui couchent dans les bagnoles, et ils vous diront que certes, il y a une souffrance au travail, on peut l'appeler comme ça, mais le non-travail, c'est la première des choses. Il ne faut pas l'oublier, ça fait partie des choses que vous avez dit tout à l'heure. Alors, parfois, on peut taper sur l'entreprise, c'est facile, et moi je le dis, on mérite, et heureusement qu'il y a des textes, qu'il y a des règlements, qu'il y a des syndicalistes qui s'en préoccupent, parce qu'il y aura encore des employeurs qui seront comme au niveau du 19e siècle, vous avez parfaitement raison, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises, CAC 40 ou pas, qui font beaucoup de choses, et il ne faut pas oublier que c'est le non-travail qui constitue, à mes yeux, déjà une des premières difficultés. Au-delà de ça, de ces problèmes d'organisation, d'engagement, il faut avoir, je le disais, des tableaux de bord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux constater ? C'est qu'on construit, il n'y a rien qui est fait dans ce domaine, en particulier dans les logiciels SIRH ou dans la plupart des tableaux de bord, qui nous permet, ou qui permet aux praticiens, comme vous le savez, d'avoir à la fois des outils qui nous permettent de pouvoir bien mesurer. Parce que c'est bien de définir une politique. Mais si après, on n'a pas des outils de mesure pour voir si on est à faire des progrès ou des non-progrès, quitte à les réadapter, je crois qu'on risque à ce moment-là de faire des surplaces. Dans beaucoup de domaines, on a souvent défini des politiques, mais on a oublié de mesurer justement quel était l'impact. Et si on n'a pas ça derrière, je le signale, on risque d'avoir beaucoup de difficultés. Certes, j'ai dit souvent dans la presse que le stress qui jusqu'à ces dernières années était un peu un tabou, hein, c'était un sujet qui n'était pas abordé, était le mal, sinon un des premiers mots de ce 21e siècle. Je crois qu'en l'espace de 4-5 ans, on a pu changer pas mal de choses. Je peux témoigner moi-même hein, que lorsque j'étais jusqu'à 2000, j'étais DRH d'un grand groupe automobile et j'étais confronté à ces problèmes. Bien sûr, je m'étais attaqué, entre autres choses, aux problèmes de santé, le dur que vous parliez, en essayant de développer beaucoup de choses et en particulier en impliquant tous les dirigeants et tout l'encadrement sur ces problèmes. Il faut savoir que les deux critères clés qui étaient la base même des primes ou des éléments variables, c'était certes le résultat de l'entreprise, mais c'était aussi les deux indicateurs de taux de fréquence et de taux de gravité. Et ça, je l'ai fait partager, et c'est toujours en place pendant des années dans le groupe PSA Peugeot Citroën. Mais au-delà de ça, j'ai moi-même, et comme vous l'a rappelé Anne-Marie tout à l'heure, fait partie de ces gens qui ayant été confrontés à des problèmes de suicide en 6 mois, 4-5 suicides sur un site industriel qui était le site de Mulhouse, a été amené à prendre conscience à la fois de ce phénomène et de ses aspects. Pourquoi ? Parce que, certes, quand on gratte, on va toujours dire, et c'est la chose que certains diront, il n'y avait pas de lien avec le travail. Et certes, oui, mais enfin, ces 5 collaborateurs, ces 5 collègues qui sont décédés, ça ne peut pas laisser indifférent. Donc, pour être allé sur place et pour avoir discuté avec l'encadrement, avec les collègues, avec les syndicalistes, j'ai mesuré à la fois non seulement l'impact que ça avait sur la famille de ceux qui avaient donné fin à leur vie, mais aussi vis-à-vis du traumatisme que ça pouvait poser sur la population active, c'est-à-dire les collègues du travail. Donc c'est pour ça que j'ai mis, avec les syndicats, le problème qui était jusqu'à maintenant un tabou. On n'en parlait pas. On parlait que de la sécurité. J'avais développé l'alimentation et le sport parce que je pensais que ça allait dans l'ensemble de la santé. Mais ce problème du stress, des risques psychosociaux, il a fallu que j'ai des problèmes et qu'au mois d'août, pendant les vacances, je lise un certain nombre, parce qu'on n'y connaît rien. Et je me suis aperçu aussi que les médecins du travail, sur ces difficultés, étaient là aussi bien désarmés que moi. Hein ? Bon, non, il faut quand même le dire. Tous ces aspects qui touchent le psychique, c'est quand même une certaine spécialisation. Et excusez-moi de dire, jusqu'à ces dernières années, et vous voyez bien, et encore même, malheureusement, l'année dernière, certaines personnes sont désarmées. Donc, j'ai été confronté à ça et j'ai mis le problème sur la table. Alors, certes, on a choisi avec les partenaires sociaux un organisme qui a été faire les enquêtes, qui nous a déterminé le niveau de stress, les facteurs de stress par catégorie, par sexe, etc. Et puis qu'après, on a déterminé des plans d'action, qui sont pleins de petites choses, mais qui nous a ouvert à l'encadrement, au syndicat, à la direction, les yeux. Ça fait partie des accords, docteur, que vous avez rappelé tout à l'heure. Bon, enfin, moi, que j'ai fait vivre, et je peux en témoigner, et qui, je ne dis pas que c'est la panacée, mais enfin, en tout cas, il faut passer par ça. J'ai mis aussi, j'ai développé au-delà des politiques de sécurité, conditions de travail, j'ai mis pas mal d'ergonomes, parce que là aussi, l'encadrement, les ingénieurs, ils approchent le problème par la qualité produit, ils n'approchent pas par l'ergonomie. Donc, il faut s'entourer là aussi d'expertise. J'ai mis en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, les opérations alimentation. Bon, c'était tout bête, hein. On s'est aperçu avec les médecins du travail qu'en particulier sur un site à Rennes, il y avait une tendance quand même à l'obésité, car l'alimentation n'était pas très bonne. Donc, on a travaillé avec Sodexo et Picompass pour à la fois proposer le midi comme le soir aux équipes en tournée une alimentation plus saine avec toute une formation de communication. Et les pousser également à faire du sport. Enfin, je ne vais pas les check-up qu'on a développés avec toute la médecine du travail, pris en charge par l'entreprise, au-delà du check-up habituel de la sécurité sociale. Voilà un certain nombre de choses que je peux témoigner, que j'ai essayé de développer, en vous disant sur ce point, avant de donner mes 2 ou 3 mots de conclusion, ce que je crois, c'est qu'il faut une implication au plus haut niveau. Anne-Marie l'a dit tout à l'heure, si le président ou le directeur général aux ressources humaines ne s'implique pas, sous-traite ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelqu'un de haut niveau dans l'entreprise qui puisse avoir le poids, qui puisse se taper sur la table, eh bien, je crois que ces problèmes de santé au travail ne sont pas ou mal traités. La deuxième chose, je crois qu'il faut aussi faire travailler les expertises de manière transversale. c'est aussi bien médecins, infirmières, les ergonomes, les ingénieurs sécurité, la fonction RH, ce n'est pas le plus facile. Ce n'est pas le plus facile parce que, bien entendu, on a des experts, parfois on a des divas, parfois on a des personnes qui veulent... Mais oui, parfois on a des personnes qui ne veulent pas trop s'impliquer, et ça, c'est la plus grande difficulté. Mais il faut tous qu'ils comprennent et qu'il faut qu'ils concourent à ça. S'ils ne s'impliquent pas tous, et s'ils ne s'engagent pas toutes ces fonctions dans le même sens, eh bien, je crois que c'est là où est l'erreur. Il faut, je crois, aussi être humble. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on fait est bien. Il ne faut pas croire aussi qu'on sait tout. Et je le dis pour toutes les fonctions. Il faut être humble. Les situations ne sont jamais les mêmes. On le voit bien. Donc, c'est un domaine où nous avons tout à apprendre. On a fait d'énormes progrès sur la sécurité. On arrive à la maîtriser. J'arrivais dans l'automobile à des taux de fréquence de 2,5, 3, alors que l'ensemble de la métallurgie est à 30, dans les fonderies idem. Mais on y arrive. Et Ford à Bordeaux était encore bien meilleur que nous. On arrive à avoir les résultats. Parce que ça fait des années qu'il y a des ingénieurs sécurité, que les CHSCT se sont axés sur ça. Tout ce qui touche aux risques psychosociaux, on en est à un embryon. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Je crois aussi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas tout cité, c'est la juxtaposition d'actions diverses, de petites actions, qui est importante. Il n'y en a pas une qui va régler le problème. C'est cette juxtaposition, parce que ça crée un climat. Vous comprenez? Vous mettez en place une conciergerie, vous faites une opération santé avec l'entreprise de restauration, la médecine du travail développe des actions de prévention, vous développez le sport... Vous avez mis le problème du stress sur la table, vous avez un observatoire ou pas, peu importe, c'est les infirmières et les médecins qui questionnent là-dessus. Tout ça vous donne un esprit, une ambiance, vous donne un sens. C'est ça que je crois qu'est important. Réinventer la santé au travail, c'est reposer le problème du nouveau mode de vie au travail. Je crois qu'il faut intégrer ce problème également des générations, car il peut se poser d'une manière différente. Et puis je le dis, comme vous avez tout à l'heure mis en avant les médecins du travail, moi, je vais faire pareil pour la fonction RH ou pour les DRH. Et je pousse mes collègues à la fois s'engager dans ce domaine, parce que je crois que c'est leur fonction et leur sens, veiller à l'humain dans l'entreprise. Ouais. Si le DRH ne le fait pas, bon, souvent il oublie. S'il porte la valise du directeur financier, entre guillemets, en ayant ni plus ni moins poussé par des indicateurs de rentabilité, de productivité, il faut aussi qu'il n'ait pas peur de taper sur la table, ça je le dis à mes collègues. Je crois qu'il y a un enjeu d'image, de légitimité, et c'est là où il peut revaloriser la fonction. Je crois aussi que ça répond à un rôle stratégique, parce que entre une direction générale qui ne comprend pas souvent le problème, des organisations syndicales, bon, enfin, etc., il y a une place à jouer, là, le DRH doit la jouer. Et puis, c'est à lui, un peu, à donner du sens au travail dans l'entreprise. Et c'est pour ça que je pousse pour que cette fonction se saisisse, si vous voulez, de ce thème, de ces thèmes, que santé au travail, car ça me paraît être un des aspects les plus importants de ce début du XXIe siècle. Voilà, merci.
Merci.